Bonjour, voilà, nous avons à lire ensemble le livre de Job. Nous avons 12 heures pour faire cela. Et ce que je vous propose, c'est d'abord et avant tout... Qu'est-ce qui se passe ?
Non, il faut le passer.
Ah, bon. Ce que je vous propose, c'est d'abord et avant tout de lire le texte en nous demandant ce que ce texte veut dire pour nous aujourd'hui, bien entendu. Parce que c'est dans un langage d'abord poétique, langage de sagesse aussi, mais sur un problème qui est de tous les temps, de tous les âges. C'est le problème de la vie, tout simplement. D'où vient la vie? Et pourquoi, dans notre vie, souffrons-nous? Je ne dis pas que la souffrance est un problème, elle est une réalité. Et une réalité qui pose question, et donc qui interpelle notre liberté. Or, c'est une réalité que tous les hommes, depuis le premier jusqu'au dernier, vivent effectivement. De gré ou de force. Le sujet est donc universel. Et effectivement, la réalité de la sagesse, c'est un livre de sagesse, le troisième style des livres de l'Écriture. Il y a la Torah, c'est-à-dire ce que nous appelons la loi, mais ce n'est pas une loi, c'est un enseignement. Donc c'est un enseignement progressif, la Torah. Ce n'est pas une obligation qui nous tombe dessus. Donc, la Torah, c'est une première manière de découvrir la présence de Dieu comme l'enseignement que Dieu a mis dans notre existence, par la vie elle-même. La vie est un enseignement. La Torah, mais cette vie venant de Dieu, la Torah vient également de Dieu. Deuxième style, ce sont les prophètes. Ce n'est pas un enseignement, ce sont des visions intérieures de phénomènes qui se passent dans l'histoire. Un prophète est toujours situé dans une histoire concrète. Mais comme l'histoire concrète se répète de manière ou d'une autre à travers les siècles, les prophètes s'adressent à des personnes qui sont sous le coup d'événements politiques, d'événements économiques, financiers, comme une crise, et qui ont une vision profonde de ces événements. Pas une vision superficielle, comme nous en avons, ou comme il en passe dans les médias, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cet événement que nous vivons est en train de nous dire, c'est-à-dire, où est-ce qu'il nous interpelle? Et c'est le regard de Dieu et l'écoute de Dieu qui dirigent leur vision. Mais c'est une vision écoutante. Ce n'est pas une vision uniquement avec le regard, c'est une vision qui écoute. C'est un regard qui écoute. C'est ça que les prophètes viennent nous dire. Troisième style, ce sont les écrits. On appelle ça en hébreu les ktuvim, c'est-à-dire ce qui est écrit, donc les écrits. Et nous traduisons souvent, parce que le terme revient constamment, les écrits de sagesse. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? Nous en avons tous un peu, beaucoup, on ne sait pas combien. Ça ne se mesure pas, ça se qualifie Et ça n'a pas de prix. La sagesse est un phénomène universel. Il paraît que ce sont plutôt les sages, les vieux, qui sont sages, parce qu'ils ont un peu plus d'expérience. Ah, expérience. Ça veut dire que la sagesse est d'abord un savoir-faire ou un savoir-être avant d'être une question intellectuelle ou doctrinale. Nous avons conservé le vrai sens de sagesse que nous découvrons dans la Bible, dans l'expression « une sage femme », c'est-à-dire une personne qui aide à accoucher. Et donc, il faut beaucoup, non pas seulement de compétences médicales ou autres, mais il faut beaucoup de sens profond de la vie pour être sage femme. C'est une expérience de l'intimité de la vie. Il faut aussi beaucoup de sagesse pour bien faire des frites, par exemple, pour faire une bonne soupe. Beaucoup de sagesse. C'est-à-dire, il faut une qualité d'ouverture vers les choses et vers les personnes. Savoir transformer, cuire par exemple, c'est pas évident. Cuire, savoir quand un rôti est à point, quand on peut le servir, de quelle manière. Vous voyez, la sagesse, c'est tout cela. Mais la sagesse, c'est d'abord et avant tout un savoir-être. Savoir-être là où il faut, comme il faut, quand il faut. Il y a un certain nombre de termes qui vont exprimer dans la Bible ce qu'est la sagesse, mais il y a comme un pivot entre deux mots qui en hébreu se disent Chokmah, un hakam, c'est un sage, ou bien Bina. Bina, c'est quelqu'un qui sait discerner. Bina, donc Chokmah veut dire sagesse, c'est le substantif, et Bina, c'est le discernement. On le traduit souvent par intelligence, mais il faut savoir de quel type d'intelligence il s'agit. Il s'agit d'une intelligence concrète, pratique, qui parvient à discerner entre une chose et une autre. Parce que Bina vient d'une racine, Bin, qui veut dire entre, Ben. Je choisis entre une chose ou une autre. Donc c'est que je peux évaluer la qualité des réalités. Donc la sagesse, elle est universelle. Mais, étant universelle, elle passe par la singularité de chaque culture. Chacun est sage à sa manière, dans sa culture, à partir de sa propre expérience. Donc elle est à la fois universelle, il y a de la sagesse partout, tout le monde en a peu ou prou, mais elle suit des chemins. Et la sagesse biblique n'est pas originale. Ce n'est pas la Bible qui a inventé la sagesse, puisqu'elle se trouve partout, et elle l'a empruntée aussi chez ses voisins. Parce que dans la Bible, il y a un certain nombre d'étapes de sécularisation. Ce n'est pas un phénomène uniquement moderne, la sécularisation. Qu'est-ce que c'est que la sécularisation ? C'est la découverte de Dieu présent dans le siècle, c'est-à-dire dans le monde, c'est-à-dire dans la réalité habituelle. Mais il faut pouvoir le discerner. Je n'ai pas besoin de saupoudrer tout de Dieu, puisqu'il y est. Mais je peux discerner la manière dont il est ici ou là. Et vous avez surtout, parmi les peuples du Moyen-Orient, vous avez surtout les Égyptiens qui sont sages. Ils ont une sagesse, une longue sagesse. Mais ce n'est pas réduit au milieu du Proche ou du Moyen-Orient. Non, il y a des sagesses partout. Il y a une sagesse des Mayas, il y a une sagesse des Chinois, il y a une sagesse des Esquimaux, il y a une sagesse des gens de la Terre de Feu. Il y a des sagesses un peu partout, mais qui sont chaque fois teintées de la réalité culturelle dans laquelle ils se trouvent. Donc ils ont des manières de s'exprimer, des mythes pour la dire, et des modes d'expression. Alors, qu'est-ce qui caractérise, puisque nous allons découvrir le livre de Job, qu'est-ce qui est spécifique dans la Bible? Eh bien, c'est que cette sagesse égyptienne, la sagesse égyptienne, est représentée par une déesse, Maat, qui est assise et qui souffle dans l'oreille des rois, notamment des personnes qui ont un métier, une profession, qui soufflent comment il faut faire, une sorte de mode d'emploi. Mais si c'est une déesse qui fait cela, ça veut dire que ce n'est pas à partir de nous-mêmes, mais il nous faut un élément extérieur pour nous insuffler cette sagesse. Ah, donc c'est quelque chose que l'on reçoit. Ce n'est pas quelque chose que l'on domine, ce n'est pas un contrôle des événements, ce n'est pas une sécurisation qu'on se donne. Non, c'est un sens intérieur reçu. Et il est reçu avec la vie. Et la Bible souligne le fait que la sagesse est reçue et qu'elle est reçue de celui qui donne la vie, donc qui est reçue de Dieu. Donc elle est éclairante. Elle est éclairante par le dessus, si vous voulez. Alors, quelles sont les réalités concrètes, les thèmes de cette sagesse? Donc la sagesse est parole de Dieu. Cet élément va s'appeler parole. Pourquoi parole? Pour nous, la parole, c'est seulement dans la bouche. Pour un sémite, la parole, c'est tout l'être. Je peux danser sans parole, je parle. Je n'ai pas besoin de dire des mots. Ma danse, c'est ma parole. Mon agir, c'est ma parole. Ma façon de marcher, c'est ma parole. Alors, puisque elle paraît universelle, puisqu'il y en a partout, cette parole de Dieu présente partout. Ça, c'est la conception que vous allez trouver dans la Bible. Mais elle a des canaux, il faut qu'elle passe. Par quoi est-ce qu'elle passe? Elle passe par le père ou la mère. Intéressant. Donc elle passe par le canal de la vie. Ce sont des conseils paternels ou maternels, des conseils d'amis, comme nous dirions, des conseils intérieurs. Et donc, il y a un langage. Et comme ce langage, la réalité, de ce langage va toucher des perceptions très intime, très intérieur. Il faut que ce langage prenne des images. Parce qu'on ne peut pas dire, il n'y a pas de définition du mystère profond de chacun. Agir, c'est quoi ? Difficile à dire, agir. Il faudra des années pour s'en rendre compte, de longues expériences. On peut donner une définition rapide dans un dictionnaire, mais ce n'est pas ça l'agir. L'agir, c'est l'intime perception de ce qu'est un pouvoir qui est donné, reçu, et qui marque sa propre existence. C'est tout ça l'agir. Et un agir est toujours dans le temps et dans l'espace. Et donc, vous voyez, la sagesse va utiliser des quantités d'images qui ne sont pas toujours les nôtres. Nous allons voir Job s'exprimer d'une manière parfois tout à fait étrange pour nous. Donc, il n'y a pas seulement une traduction à faire, mais une transposition dans la vie. Et justement, lire un livre de sagesse ensemble, c'est découvrir petit à petit nos propres images, nos propres expressions d'agir, celles de nos voisins, de notre entourage, et pouvoir petit à petit évaluer tout cela, non pas juger par rapport à nous, mais évaluer par rapport à la présence de la vie, c'est-à-dire à la manière dont Dieu perçoit les choses qu'il crée et la manière dont il perçoit l'agir des hommes qu'il crée aussi. Une parole dans la Bible, d'avare, est toujours un événement. Une parole, pas seulement ce qu'on dit. Nous avions déjà ça hier dans la lecture de la liturgie. Donc, Dieu révèle sa présence dans notre quotidien. Ce n'est pas une sanctification de la vie. L'homme ne peut pas sanctifier. Ça, c'est une conception sacrale de ce que nous appelons les religions naturelles. Dans la Bible, on ne sanctifie pas les choses. Elles sont saintes. Elles sont saintes parce qu'elles sont don de Dieu. Soyez saints parce que moi, votre Dieu, je suis saint. La sainteté est donnée, et c'est la grande différence qu'il y a entre le sacré et le saint. Le sacré, c'est l'homme qui le détermine. Il détermine un espace sacré. Ici, il y a une présence de Dieu. Monsieur ou madame, un tel ou une telle, ce sont des personnes de Dieu, des spécialistes de la relation avec Dieu. Hein, c'est le GSM divin. Il y a des gens comme ça. Mais ça, c'est le sacré. Et ça vaut pour tout un chacun. Il ne faut pas une religion révélée pour cela. Dans toutes les religions, dans toute vie, il y a du sacré. Il y a des choses auxquelles on ne touche pas. Mais dans la Bible, le saint est donné comme saint. Ça veut dire qu'il est donné comme une réalité, comme un mystère. Qu'on le découvre. C'est qu'un mystère. Un mystère, c'est la réalité profonde qui nous constitue et sur laquelle je ne peux jamais mettre la main. C'est plus grand que moi. C'est en moi plus grand que moi. Et donc, je n'ai pas à ramener à moi, puisque c'est plus grand à moi que moi. Donc j'ai à faire passer à celui qui me donne. Voilà les grandes caractéristiques de la sagesse. Alors, dans ce livre, la Bible, c'est une écriture. Ce sont des réalités qui sont écrites. Pas seulement des réalités vécues, mais on écrit le vécu. On écrit le vécu pour en faire mémoire. Et on en fait mémoire pour pouvoir le transmettre. Ça, c'est l'écriture. Et l'écriture est un phénomène essentiel de transmission de génération en génération. Sinon, on ne pourra pas se faire comprendre de ses petits-enfants ou de ses arrière-petits-enfants. Il faut donc qu'il y ait quelque chose de commun que l'on apprenne. On apprend le langage d'une tribu, on apprend le langage d'un pays, on apprend le langage de Dieu, tiens, voilà. Ça s'apprend, mais ça se dit. Donc l'écriture, c'est toujours une expression mémorisée, donc passée par une culture, une expression mémorisée d'une expérience vitale. Vital, pas d'un petit événement qui se passe d'un côté ou de l'autre. Dire que Jésus s'approche de ses disciples, bon, oui, c'est banal. Oui, mais dire que Jésus marche sur la mer, c'est pas banal. Ça veut dire qu'il utilise les pieds de Dieu qui, lui, marche sur sa création. Ça veut dire qu'il s'agit d'une autre réalité que de mettre ses pieds quelque part. Ça, c'est ce que nous appelons le symbole, c'est-à-dire la réalité profonde, qu'on ne peut pas définir parce qu'elle dépasse, mais qu'on peut indiquer. Mais on ne peut l'indiquer qu'avec des figures ou avec des histoires, précisément parce qu'on ne peut pas la cerner. Nous sommes chacun un mystère. C'est-à-dire une présence unique de Dieu. Unique. Donc jamais personne ne pourra dire qui je suis. Moi-même non plus. Sinon, en le vivant. Et donc c'est tout cela. L'écriture, c'est cette réalité d'expérience qui est mise en mots et en images, en musique aussi, parce que les mots sont des musiques. En musique, pour quelle raison? Pour que nous puissions en aspirer quelque chose, je dis bien aspirer, respirer comme un parfum. Nous pouvons en respirer quelque chose pour le mettre dans notre existence. Et alors, qu'est-ce que nous trouvons dans la Bible? Quel type d'existence trouvons-nous dans la Bible? Mais on parle de naissance, on parle du courant de la vie, on parle de la souffrance, puisqu'elle est présente. On parle de l'amour. Le livre de Job va se focaliser sur la souffrance. Alors, la souffrance, ça vient d'où? Est-ce que c'est une punition? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive telle ou telle chose? C'est une punition? Ou bien, est-ce que c'est un autre élément? C'est Dieu qui m'en veut? Hein? Arbitrairement, comme cela? C'est quoi? Et quand on n'a rien fait de mal, un innocent, un petit enfant qui meurt, c'est quoi? Est-ce que Dieu a quelque chose à voir là-dedans? Ça, voilà, c'est un petit peu la réalité que nous allons cerner dans le livre de Job, avec différentes options. Parce que la Bible ne vous donne pas un enseignement comme cela, à avaler tout cru. Non, la Bible nous met en travail. Elle nous apprend à découvrir différentes hypothèses. Et heureusement qu'elle nous fait cela, et qu'elle ne nous dit pas voilà ce qu'il faut faire. Pourquoi? Mais parce qu'elle s'adresse à des libertés. Il faut éclairer les libertés. Mais on ne peut pas se mettre à la place de l'homme ou de la femme libre. Ce sont eux qui agissent, éclairés bien entendu. La Bible est l'écriture de cet éclairage que l'on appelle révélation. L'amour, c'est quoi ? Cantique des cantiques. La souffrance, c'est quoi ? Livre de Job. Le lien à Dieu, c'est quoi ? Qohélète, Ecclésiaste. La vie courante, c'est quoi ? Les proverbes. Voilà la sagesse. C'est cette vie courante avec différents points de focalisation suivant les textes que nous prenons. La prière, c'est quoi ? Des psaumes et toute une variété, 150 psaumes. On vous livre cela en vrac pour que chacun puisse trouver dans ces psaumes un chemin de Dieu vers lui qu'il va emprunter pour aller vers Dieu. Mais le chemin vient d'abord de Dieu. Voilà, ça c'est la sagesse mise par écrit dans l'écriture de la Bible. Dans la liturgie juive, il y a des livres de sagesse qui ne sont pas ceux que je viens de noter. Parce que ils sont exprimés d'une autre manière. On vous raconte des histoires. Nous dirions, nous, aujourd'hui, ce sont des romans. Ben oui, ce sont des romans. Allez, je vais vous prendre un exemple. Le livre de Tobie. C'est une histoire. Une histoire qui est située à un moment déterminé. Le livre d'Esther. C'est une histoire, un roman. Le livre de Ruth. Un autre roman. Mais un roman, c'est une réalité profonde, mais que l'on dit d'une certaine manière, pour vous découvrir que ce que nous avons vécu, il y en a d'autres qui le vivent. Et donc on va, comme nous disons nous-mêmes, on va romancer l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va lui donner une coloration caractéristique. On ne lit pas un roman comme on lit un code de droit civil. Ce n'est pas la même chose. C'est un genre littéraire différent. Et vous avez, vous voyez, dans la liturgie juive, ce qu'on appelle les cinq rouleaux, les Chamesh Megillot, à des fêtes particulières, on vous relit toujours la même écriture. Particulière à la fête. Et si on la relit chaque année, c'est pour que chacun et chacune redécouvre chaque année l'actualité de ce qui est dit. Pas des faits et gestes tels qu'ils sont écrits, ça c'est du fondamentalisme, la Bible n'est pas fondamentaliste. Certains journaux le sont, oui. Mais pas la Bible. Mais la Bible vous dit les choses pour qu'elle chatoie de nouveau, hein, qu'elle donne des parfums nouveaux dans notre existence, pour retrouver quelque chose d'ancien, mais nouvellement. L'année passée, c'était comme cela, mais en un an, j'ai continué de vivre, j'ai eu des expériences nouvelles. Et donc la répétition des mêmes lectures, nous avons repris ça dans notre liturgie, mais ça vient d'Israël, on reprend le tout le temps. Ce qui veut dire que notre vie, depuis le moment où la cellule initiale de notre papa et celle de notre maman se sont unies, mais nous avons évolué. Mais tout était déjà là en germe, hein, mais nous avons évolué. Et cette foi dans l'évolution est précisément le chemin de la sagesse, le chemin de Dieu dans l'histoire des hommes. l'énigme, c'est-à-dire le chemin caché de la sagesse, c'est l'inconnu du chemin de l'homme dans la femme. Oui. Toutes ces expressions sont intéressantes, ça veut dire qu'est-ce qui est en train de se former quand un petit être se forme dans le sein d'une femme. Ça, c'est une histoire extraordinaire. Tout ce qui va venir est déjà présent, avec une puissance de croissance étonnante. C'est la foi dans cet étonnement de la croissance. Alors, je vous dis, quand on lit tel ou tel livre, c'est toujours un peu indicatif. Le livre de Ruth, cette belle histoire de Ruth, vous avez, je suppose, déjà lu un certain nombre de fois, le livre de Ruth, qui dit précisément le rapport entre deux femmes et le rapport entre femme et homme, très important, c'est-à-dire, elle parle de l'alliance, bien entendu, mais ça se dit à la Pentecôte, à Shavuot. Tiens, c'est étonnant. L'alliance se dit à la Pentecôte. Le cantique des cantiques, l'amour entre un homme et une femme, se lit à Pâques, à Pessah, où l'alliance se consomme. Le passage de Dieu dans l'homme et de l'homme en Dieu, à Pessah, à Pâques. En automne, septembre ou octobre, se fait la fête que l'on appelle, dans notre langage, les tentes. La fête des tentes, mais en fait c'est la fête des cabanes. Et sur sa terrasse, dans son jardin, sur les grandes places, on se bâtit une cabane. Parce que notre vie humaine, c'est comme une cabane. Ça se bâtit, c'est fragile, ça tombe. Notre vie est fragile, notre vie est mortelle. Eh bien, on va vous lire Corélette, qui nous raconte la vie et qui se termine par un beau cantique sur la vieillesse. Quand on veut célébrer, ça c'est au mois d'août généralement, quand on veut célébrer la chute du temple. Qu'est-ce que c'est que la chute du temple? La présence de Dieu qui quitte la ville de Jérusalem, la maison du temple. Le temple qui est notre réalité, hein? Chacun de nous est temple de Dieu. Le temple, c'est le lieu de rencontre, la tente de la rencontre dans le désert. Le lieu de la rencontre entre le divin et l'humain. Eh bien, on lit les lamentations, c'est-à-dire des chants de départ, des chants de solitude, des chants où l'on vit sa vulnérabilité, on l'accueille, on accueille ce que l'on est avec ses limites. Et puis alors, dans ce qui correspond à notre carnivalé, hein. Au revoir la viande, c'est ça que ça veut dire, hein, le carnaval. Au revoir la viande, pendant 40 jours, on ne va plus manger de viande, c'est-à-dire on va se rétrécir pour être plus disponible, c'est ça le jeûne. Eh bien on va lire le livre d'Esther. Qu'est-ce qui se passe quand on est persécuté? Esther veut dire étoile, Estella. Qu'est-ce qui se passe quand on est persécuté? Et qu'on ne veut plus vous voir, et qu'on vous tue. Qu'est-ce qui se passe? Où Dieu est-il là-dedans, dans la persécution? Donc ça, c'est généralement au mois de février, ça va être dans, je ne sais pas exactement, dans quelques jours. Pourquoi est-ce que je parle de la liturgie Mais parce que la liturgie dit notre existence quotidienne. Elle dit Dieu présent dans notre quotidien. Et la liturgie est toujours prophétique. C'est-à-dire, elle regarde toujours l'intérieur. La prophétie, ce n'est pas dire l'avenir. C'est dire l'intériorité des choses. Et notre liturgie dit, les gestes devraient être suffisamment significatifs, et les paroles aussi, n'en faut pas tellement, dit la réalité profonde des choses. Alors, encore une chose, on a mis la sagesse sous l'égide de Monsieur Salomon. Shlomo, le pacifique. David, c'est le guerrier. Daoud, David, c'est l'amoureux ou le guerrier, le passionné. Et Salomon, Shlomo, c'est le pacifique. Guerre et paix. Quand on parle de Salomon, on parle toujours un peu de paix quelque part. Et quand on parle de David, il y a toujours quelque part de la bataille, de la guerre et du psaume. La prière est aussi une guerre. C'est Dieu aussi, c'est moi qui va gagner. Hein? Je pousse sur le bouton et ça vient. Non. La prière, c'est pas ça du tout. C'est la mise à la disposition. Vous voyez? Guerre et paix. Et donc, David et Salomon, ça dit beaucoup plus que Monsieur David et Monsieur Salomon. C'est toute une histoire. C'est toute notre histoire. Alors, qu'est-ce qu'on a mis sous le patronage de Salomon? Ben, la sagesse. Parce qu'après la guerre, il y a l'établissement. Donc, la paix qui se fait. Mais la paix, ce n'est pas une sinécure. Et la paix a des âges. Et alors, pour dire cela, la tradition juive, qui aime bien de dire les choses de manière généalogique, ou par effet, parce que la langue hébraïque est une langue corporelle, ou d'une manière plus corporelle, plus personnelle, passage par la personne, elle nous dit... Le cantique des cantiques, et les proverbes qui nous dit le quotidien, et le Kohélète. Kohélète veut dire rassembleuse, où l'on rassemble, ou ce qui rassemble la communauté. C'est la même expérience qui rassemble. Et c'est du féminin aussi. Le cantique des cantiques. Salomon l'a composé quand il était amoureux. Les proverbes, Salomon les a composés au jour le jour, comme s'il mettait des pensées tous les jours dans son agenda. Et le Kohélète, qui marque la limite de la vie, mais c'est quand il était vieux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien sûr que ce n'est pas Salomon qui a composé tout ça, c'est évident. Pourtant, on parle de Salomon, qui a prié, justement, pour recevoir la sagesse. C'est vrai, il y a un Salomon au départ, mais il y a des quantités de Salomon, comme il y a des quantités de David. Au départ, évidemment, d'une vie d'un monsieur David. Mais c'est beaucoup plus grand qu'une petite vie. C'est pour ça que ça a été écrit. C'est la vie du livre qui devient nos personnalités. Ça veut dire que la sagesse que nous focalisons sur un personnage, Salomon, Salomon devient l'homme, le roi de sa vie, la liberté que que j'ai à acquérir. Et donc, mettre ensemble des livres aussi différents que le Cantique des Cantiques, que les Proverbes avec toute leur variété, et que le Coëlette, ça appartient au Salomon que nous sommes. Quand nous lisons ces livres, et quand nous les approfondissons dans notre vie. Alors, il y a encore un point de la sagesse que nous devons éclairer. Mais c'est très difficile. Pourquoi la sagesse est-elle du féminin? Et pourquoi est-elle représentée comme une femme? Ça, c'est important. Et à plusieurs solutions. Je vais vous lire le passage d'une femme, évidemment, qui va écrire sur ce thème. Il s'agit d'Anne-Marie Pelletier, qui est une excellente exégète, qui a écrit beaucoup de choses, qui a fait une thèse sur le Cantique des Cantiques et qui a écrit beaucoup sur le Cantique des Cantiques. Et elle nous dit les choses de manière qui est très belle. Voilà. Quelle portée accorder à la féminité de la sagesse? Pourquoi s'agit-il toujours de dame sagesse et de son contre-portrait dame folie? Pourquoi présente-t-on la sagesse comme une femme qui appelle? Venez tout après, venez manger. La sagesse a bâti sa maison, elle a dressé la table, et elle s'adresse à tout venant, au carrefour. Bizarre, hein? Doit-on ne voir en elle que le témoignage d'une substriction polythéiste? Dans les pays avoisinant Israël, les dieux étaient toujours homme-femme. Est-ce que Israël a voulu prendre quelque chose de cela et construire à côté de Dieu, mais comme n'étant pas Dieu, un personnage féminin? Ah, question. Donc, le témoignage d'une substruction polythéiste qui, au point de départ, aurait associé au Seigneur la figure d'une divinité féminine, femme, en écho à des traditions religieuses avoisinantes. Mais ça serait bizarre, parce que justement, c'est ce que Israël ne veut pas faire à travers toute la Bible. S'agit-il plutôt d'une donnée essentiellement rhétorique? C'est une manière de parler, quoi, hein? Bon, le mot est du féminin, ça suffit. Manière, par exemple, d'exprimer le jeu de la médiation entre Dieu et les hommes, une relation. Ou bien encore, comme le suggère Claudia Camp, manière de placer sous le patronage d'une autorité féminine les bons conseils de l'héritage sapientiel d'Israël. Pourquoi pas? Puisqu'on la présente souvent comme une maman qui conseille son fiston ou un papa qui conseille sa fille. Ou bien, doit-on traiter des textes qui parlent de la sagesse personnifiée ou que la font parler comme des éléments prophétiques du salut dont le mystère se précise progressivement durant le temps post-exilique? Manière de parler, métaphore. Mais une métaphore a quand même une réalité, quelque part. C'est pas tout à fait gratuit. Auquel cas, cette féminité acquiert une portée vraiment théologique. Ah. Et alors, elle exprime quelque chose qui est très fin. C'est un peu long, je ne peux pas tout lire. Mais je vous lis simplement le titre et une parole de la fin. Le mystère d'une féminité qui précède homme-femme. Intéressant cela. Une féminité qui préfère la distinction homme-femme. Et d'ailleurs, quand vous prenez certains textes des Proverbes, par exemple, chapitre 8, ou certains de la sagesse de Salomon, il ne s'agit plus de réalité sexuelle ou sexuée telle que nous la vivons ici. C'est quelque chose de plus profond, mais qui tient de la féminité. Qu'est-ce que la féminité? Si c'était le chemin de Dieu à travers la création, c'est la femme qui porte la vie. Mais avant. Et de fait, mais d'une création qui est menée à son aboutissement, dit dans les termes de la tradition, qui est rachetée. Si nous parlions anglais, atonement, c'est la rédemption, atonement, qui est réunifié à sa source. Et là, quelque chose de très profond. Et alors, elle dit pour finir, de façon énigmatique, mais forte, elle prend quelques-uns des textes, cette réalité ne met pas directement en jeu la différence sexuelle qui, dans la tradition biblique, n'intervient qu'avec la création de l'humanité, est désignée une féminité antérieure à homme-femme. Que cette sagesse féminine déborde et précède l'opposition des sexes n'est probablement pas sans rapport avec les notations que relève Paul Beauchamp en Sagesse 3, célébrant de façon inattendue dans la tradition d'Israël l'eunuque et la femme stérile. Tout homme, toute femme, quelle que soit sa situation, est précédé par une vie. Et ça, il reçoit une vie. Il ne la crée pas, il ne la domine pas. Là où le célibat se présente comme dépassement et non négation de la différence des sexes, la sagesse féminine trouve sa place et sa confirmation dans un contexte où l'homme n'est plus assujetti à l'exigence d'une fécondité charnelle. On note encore que cette féminité qui, liée à la sagesse, est contemporaine de la création où surgit l'humanité, se retrouve aussi au terme lorsque les temps derniers débouchent sur la fin de l'histoire. Au bout de l'Apocalypse, nous avons l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Il y a effectivement entre l'Esprit Saint, qui est du féminin en hébreu, et cette féminité, la sagesse de la sagesse, il y a un lien profond. Ça nous mène très loin, hein? Et il dit donc, il parle justement des mots du livre de l'Apocalypse qui sont occupés, comme on sait, à évoquer la figure féminine de l'Église, épouse, c'est-à-dire de l'humanité. L'humanité en alliance avec Dieu, en épousaille avec Dieu. Regardant vers le hors-temps de l'éternité, dont les synoptiques déclarent qu'on n'y prend ni femme ni mari, Jésus dit ça, le texte qui clôt le corpus canonique de la Bible maintient donc étrangement, mais solennellement, la mention de cette féminité. y a-t-il une manière de percevoir la féminité de Dieu comme un flux de vie? Et alors, elle nous cite un beau passage, un beau texte de saint Anselme. On sait que les versets de Proverbe 8, c'est un peu ce à quoi je suis en train de faire allusion, et ceux de Sirach, Ben Sirach 24, ont été appliqués par l'Église ancienne à la Vierge Marie, et cités dans la liturgie des fêtes qui la concernent, l'incarnation fut bien perçue comme manifestation de la sagesse de Dieu, qui inclut en la personne de Marie le féminin dans le salut. Et alors, elle nous cite ce texte de saint Anselme. Toute la création est l'œuvre de Dieu, et Dieu est né de Marie. Dieu a tout créé, et Marie a enfanté Dieu. Dieu qui a tout formé, s'est formé lui-même du sein de Marie. Et ainsi, il a refait tout ce qu'il avait fait. Lui qui a pu tout faire de rien, n'a pas voulu refaire sans Marie sa création détruite. Dieu est donc le Père de toutes les choses créées. Et Marie est la mère de toutes les choses recréées. Dieu est le Père de la création universelle, et Marie, la Mère de la rédemption universelle. Car Dieu a engendré celui par qui tout a été fait, et Marie a enfanté celui par qui tout a été sauvé. Dieu a engendré celui sans qui absolument rien n'existe, et Marie a enfanté celui sans qui absolument rien n'est bon. Voilà un peu à quoi la sagesse nous mène. Elle nous mène à de grandes profondeurs qui, si on les laisse exister, donnent un certain vertige. Alors, à partir de la semaine prochaine, je vous donnerai chaque fois un petit résumé de ce que j'essaye de dire. Vous avez beaucoup plus dans un livre plus savant, Dieu, Job et la sagesse, que vous pouvez trouver à l'accueil, numéro 1 de la collection Lessius. Vous comprenez bien que si j'ai titré Dieu, Job et la sagesse, c'est pour montrer en filigrane qu'il y a Père, Fils, Esprit-Saint. Que la sagesse, cette féminité divine, est très proche de l'Esprit-Saint. Alors, pourquoi on souffre? Pourquoi la souffrance est-elle une présence de Dieu? Oh! Ah oui! Vous avez cette phrase, le Seigneur a tout donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Nous verrons cela la fois prochaine. Nous commencerons l'histoire de Job, car le livre de Job, c'est une histoire. Elle est racontée comme l'histoire d'un monsieur qui a tout perdu. Tout perdu en un jour. Il n'est plus rien que souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Israël a-t-il écrit ce livre après avoir passé une première Shoah, une première destruction? Pourquoi? Avant, il n'aurait pas pu le faire. et n'a pu le faire que parce qu'il avait souffert. Israël, ce qui avait été en exil, parce qu'on en avait détruit beaucoup des Israélites de l'époque. Et il y a pas mal d'auteurs juifs modernes qui ont réécrit le livre de Job après la Shoah, la deuxième Shoah, celle de la guerre de 40. Et nous y ferons quelques allusions aussi. Parce que ce n'est pas seulement une lutte théologique abstraite entre M. Job, trois théologiens de ses amis, et un quatrième qui vient s'y rajouter. Ce n'est pas seulement cela. C'est une réalité existentielle. Job, c'est moi. Job, c'est toi. Job, c'est celui qui a souffert et qui a pu découvrir que dans sa souffrance absurde, mauvaise, Dieu était présent. C'est pourquoi nous allons terminer notre passage, notre programme. Nous allons terminer justement par une conclusion, si on peut dire, qui met en parallèle Job et Jésus-Christ. Si nous pouvons découvrir que Jésus-Christ, c'est Job, que Job, c'est Jésus-Christ, nous pourrons peut-être percevoir que Job vit en Jésus-Christ et que Jésus-Christ est en chacune et en chacun d'entre nous. Car si Jésus-Christ a pris chair, ce n'est pas seulement de Monsieur Jésus de Nazareth, c'est de toute chair humaine, puisque du premier homme ou femme au dernier homme ou femme, Jésus-Christ est présent. Vous êtes le corps du Christ et membre chacun, chacune, pour sa part. C'est ça le mystère de Job. C'est découvrir que cette réalité de Job nous concerne. Pas seulement une thèse de théologie, mais une vie en théologien ou en théologienne. Merci. Rendez-vous la fois prochaine, à 8h30, et nous commencerons la lecture du livre lui-même. Vous pouvez toujours lire les deux premiers chapitres.